Laudetur Jesus Christus.
Coup d'envoi d'une semaine de jubilé pour les jeunes. Les groupes de 146 pays affluent vers Rome pour leur premier rendez-vous. Ce matin, le pape a reçu une délégation de jeunes péruviens, son pays de mission. Il a aussi encouragé de jeunes scouts français. La famine employée comme arme de guerre à Gaza, la pression internationale s'accentue sur Israël pour ouvrir tous les points de passage terrestres nécessaires à la livraison d'aide humanitaire. Pour l'heure, les convois entrent par dizaines depuis samedi. Vers la création d'un gouvernement parallèle au Soudan et l'aggravation concomitante de la crise humanitaire, les paramilitaires en ont fait l'annonce ce samedi. Et puis, tour d'horizon des réactions contrastées au sein des 27 à l'annonce de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Conclut ce dimanche en Écosse.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, les jeunes à l'honneur en cette semaine avec le jubilé qui leur est dédié. Léon XIV a reçu ce matin au Vatican une délégation de jeunes pèlerins péruviens. Mais le pape regarde aussi au-delà de Rome et s'intéresse à toutes les initiatives des jeunes catholiques comme celle des scouts et des guides de France, auxquels il a envoyé un message ce week-end à l'occasion de leur rassemblement clameur. Point d'étape dans leur réflexion sur leur engagement en faveur de l'environnement. Xavier Sartre, dans ce message lu aux 20 000 participants réunis à l'Ouest de Paris, le Saint-Père les félicite et les encourage.
Oui, Léon XIV salue une belle initiative des scouts et guides de France qui montre qu'ils veulent être des acteurs et des actrices du changement en mettant le scoutisme au service des enjeux climatiques, apportant leur contribution à la protection de l'environnement et en renforçant leur engagement au service du bien commun. Le pape reconnaît qu'une éducation écologique s'impose pour inverser l'ordre des choses. C'est vrai, reconnaît-il, que seule la conversion intérieure rend possible le changement d'habitude et de mentalité. Les scouts et guides de France sont donc encouragés par Léon XIV à être ambassadeurs de la fraternité, de la paix dans leur milieu de vie. Et ils ont des atouts, étant en lien avec les personnes adultes et les personnes âgées. C'est une richesse qui vous permet de voir les choses en grand et de concevoir un monde pacifié avec les armes du chrétien qui sont la foi, la vérité, la justice, l'évangile de la paix, dit-il. Le pape enfin incite les scouts et guides à témoigner leur foi dans le monde, à être des agents de changement et d'espérance dans la société.
C'est le même genre d'encouragement que le pape a adressé ce matin à des jeunes du Pérou.
Oui, Léon XIV leur demande de ne pas se contenter d'emmagasiner les beaux souvenirs lors de ce jubilé lors duquel ils feront l'expérience de se sentir appartenir au peuple de Dieu. De retour au Pérou, ils doivent inonder leur terre de la joie et de la force de l'évangile. Il faut, selon le pape, que chaque personne qu'ils rencontrent voit en eux le visage du Christ qui aime et s'engage, aimer et servir gratuitement, exhorte Léon.
Merci Xavier Sartre. Avant cette audience, le pape américano-péruvien a reçu pour sa part en privé la présidence de l'épiscopat du pays andin. Monseigneur Prévost en était vice-président de 2018 à 2023 avant d'être nommé au dicastère pour les évêques. Et parallèlement, dans la matinée, le secrétaire d'État du Saint-Siège est lui intervenu au jubilé des missionnaires numériques et des influenceurs. Il a exhorté les acteurs de ce nouveau continent virtuel d'évangélisation à ne jamais céder à l'anonymat, à la superficialité ou au narcissisme. Un événement en marge duquel le cardinal Parolin a aussi évoqué plusieurs dossiers internationaux en cours. Le secrétaire d'État a dénoncé, dans la même tonalité que le secrétaire général de l'ONU, la nouvelle arme de la famine à Gaza où la situation est insoutenable, a-t-il répété ce matin. L'enclave palestinienne où seules quelques dizaines de camions sont entrés depuis l'annonce par Israël samedi soir de pause humanitaire quotidienne en journée pour laisser rentrer cette aide internationale. La famine est atteinte à son seuil extrême, laissant notamment des dizaines de milliers de bébés promis à une mort lente si tous les passages terrestres avec la bande de Gaza ne sont pas ouverts d'urgence. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
Malgré les annonces israéliennes sur des pauses humanitaires quotidiennes pour laisser entrer l'aide humanitaire internationale dans la bande de Gaza, c'est une quantité dérisoire de camions qui ont été acheminés hier, 73 selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne n'a pas non plus fourni, comme promis, des passages sécurisés pour les convois pour qu'ils accèdent aux populations sans encombre. Le ministère estime que 100 000 enfants sont au stade extrême de la famine et précise que beaucoup d'entre eux souffrent de graves problèmes de santé par manque de nourriture. Quelques 40 000 nourrissons de moins d'un an sont en situation de lente agonie. Leurs mamans elle-même affamée, n'étant pas capable de les nourrir. La famine est en train à la fois de s'aggraver et de s'étendre de manière intensive à l'ensemble de la population, alors qu'Israël maintient de fait son blocus. La puissance occupante israélienne refuse toujours d'ouvrir tous les points de passage, comme l'exigent les Nations Unies et les grandes ONG internationales depuis plus d'un an, lors de l'apparition des premiers foyers de famine en 2024. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
En Cisjordanie, le village chrétien de Taïbé a subi cette nuit une nouvelle attaque des colons aux alentours de 2h30 du matin, incendiant des voitures, intimidant la population des exactions condamnées par le Forum des chrétiens de Terre Sainte ce matin. C'est une décision qui risque d'aggraver la profonde crise humanitaire au Soudan. Les paramilitaires des FSR viennent de nommer un premier ministre et un gouvernement parallèle. Les noms ont été révélés ce week-end depuis Niala, la capitale du Darfour du Sud, où des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité font l'objet d'enquêtes. Augustine Passy.
Pour le seconder à la vice-présidence de son conseil présidentiel, Hemeti a choisi Abdelaziz Al-Hilou. Ce dernier est à la fois le chef d'un groupe rebelle armé et un politicien chevronné qui a conditionné sa participation à l'alliance dite Tassis, c'est-à-dire le bras politique des FSR, à la future sécularisation du pays. Ce gouvernement parallèle affirme ne pas vouloir faire sécession. De nombreux analystes évoquent plutôt une tentative de contrebalancer le poids des autorités pro-armées de Port-Soudan en cas de reprise des négociations. Port-Soudan ne reconnaît évidemment pas cette nouvelle instance concurrente. Dans un communiqué, le ministère soudanais des Affaires étrangères a ainsi qualifié cette annonce de gouvernement fantôme, tandis que le porte-parole de l'armée a évoqué une mise en scène grotesque. Les combats, qui durent depuis plus de 2 ans, ont provoqué la plus grave crise humanitaire du globe. La situation est particulièrement préoccupante au Darfour, le fief de Hemeti, où le nombre d'enfants traités pour malnutrition aiguë sévère a bondi de 46% entre janvier et mai 2025. Augustine Passy pour Radio Vatican.
Une bonne nouvelle en revanche du côté de l'Asie du Sud-Est où la Thaïlande et le Cambodge viennent de convenir d'un cessez-le-feu inconditionnel à partir de minuit ce soir. Des négociations de paix avaient lieu en Malaisie après 5 jours d'affrontements meurtriers et des milliers de personnes déplacées par les échanges de tirs à la frontière. Le premier ministre cambodgien Hun Manet parle d'une solution qui va de l'avant. Respect mutuel et réciprocité, c'est ce que la Chine affirme rechercher dans ses négociations commerciales avec les États-Unis. Un nouveau cycle de discussions a lieu ce lundi en Suède entre les deux puissances. Elle pourrait aboutir à une prolongation de la trêve tarifaire de 90 jours négociée en mai à Genève. En revanche, pour l'Union européenne, ce sera 15% de droits de douane. L'accord a été trouvé hier après des mois de négociations entre les États-Unis et la Commission européenne, chargée des négociations par mandat des 27 capitales. Chaque État membre doit maintenant ratifier ce qui a été agréé. Et ce processus est engagé depuis ce matin avec la réunion des 27 ambassadeurs représentants permanents à Bruxelles. Mais ensuite, chaque capitale va devoir donner son blanc-seing et tout le monde n'est pas d'accord. À Bruxelles, Pierre Benazé.
La réaction française très négative à l'accord commercial avec les États-Unis n'est pas isolée dans l'Union européenne. Le seul à condamner aussi ouvertement que la France le résultat des négociations est le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Pour lui, je cite, « Donald Trump a mangé Ursula von der Leyen au petit déjeuner ». C'est la plus extrême des critiques formulées par les 27 capitales de l'UE face à l'imposition de 15% de droits de douane. Si on regarde du côté de ceux qui approuvent l'accord avec les États-Unis, on voit surtout des réactions par défaut. Pour l'italienne Giorgia Meloni, par exemple, ce qui est positif est essentiellement que l'accord évite une escalade commerciale aux conséquences dévastatrices. Et même du côté de l'Allemagne, le chancelier Friedrich Merz se réjouit bien sûr que les droits de douane sur l'automobile soient réduits de 27,5% à 15%, mais il y voit surtout une chance d'avoir évité une guerre commerciale. Les plus optimistes, en quelque sorte, sont la Finlande et l'Irlande, qui se félicitent de perspectives de prévisibilité et de certitude offertes par cet accord. Mais celui qui reflète le mieux le sentiment général, c'est le ministre suédois du Commerce. Pour lui, cet accord commercial est peut-être la moins mauvaise des solutions. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Et terminons ce journal en Chine où le gouvernement annonce ce matin des allocations familiales aux parents pour lutter contre la natalité en berne. 420 euros annuels par enfant de moins de 3 ans. Selon des projections de l'ONU, en effet, la population chinoise pourrait passer de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à 800 millions d'ici 2100. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. L'actualité du pape, de l'Église et du monde revient demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente journée.